Bienvenue chacun d'entre vous ce matin. Bienvenue aux visiteurs. Bien, c'est une joie d'être ensemble à l'entour de la parole ce matin, au travers de ce que le Seigneur a pour nous, ce qu'il a placé sur mon cœur à vous partager. Donc, merci Seigneur pour ce temps de louange. Merci pour sa présence. Qu'on peut continuer à s'assembler ensemble pour louer notre Dieu. Ce matin, bien, le titre du message, c'est « Jésus est là pour toi ». On pourrait dire pour moi, pour nous, nous tous. Donc, le Seigneur est vivant et il est là. En introduction, bien, nous approchons, comme vous le savez, du jour où nous soulignons la naissance du Sauveur. Du Messie, de Jésus. Donc, on est à un petit peu plus qu'un mois, parce qu'on est déjà rendu au 30. Donc, très bientôt. On a déjà commencé, si vous avez sorti un petit peu à l'extérieur, on a déjà commencé à entendre les chants, les cantiques de Noël qui nous mettent dans cette ambiance du temps des fêtes. Et j'avais cette pensée, il y a des visiteurs qui demeurent inoubliables, comme celle où Jésus est venu, en considérant le titre du message, mais quelle personne ou endroit avez-vous vu ou rencontré qui vous a marqué le plus dans votre vie jusqu'à maintenant? Je nous lance une question en partant, et pour certains, bien, ça peut être une personne importante, de ce monde, ou soit chanteur, ou ministre, ou quelque chose comme ça. Mais pour d'autres, ça peut être aussi un endroit où ce qu'on a été, c'était vraiment extraordinaire. Pour moi, les personnes qui ont placé leur foi en Jésus, bien, nous pourrions vous dire que c'est le jour où le Seigneur s'est fait connaître à nous. Que ça a été la rencontre la plus inoubliable de notre vie. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas placé notre foi en une nouvelle religion, mais que nous avons reçu le Seigneur dans notre vie, dans une assemblée qui prêche la repentance, le salut en Jésus-Christ et la parole de Dieu. Donc, tout cela a fait que ça l'a fait un impact dans notre vie, ça a été quelque chose qui est venu faire une grande différence dans notre vie. Notre Dieu, ce matin, de toute éternité, d'un royaume qui est divin et céleste. Et c'est pour cette raison que lorsqu'on rencontre Jésus, qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire, d'encore plus grand que n'importe quel endroit ou n'importe quelle personne qu'on peut rencontrer ou qu'on peut voir dans notre vie. Jésus nous dit, nous pouvons lire dans l'Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 28, Jésus nous disait ici, « Je suis sorti du Père. » Et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire par ce passage? On va regarder ce matin au travers, ce texte. Mais aussi, j'aime prendre différentes traductions, comme vous savez, pour nous aider à comprendre le sens que Jésus a voulu nous apporter ici, cette notion de où il vient et qu'il s'en retourne d'où il est venu. Notre traduction nous diront, c'est vrai, nous parlons de vérité ici, je suis sorti, où nous pouvons voir dans les textes grecs, la définition ici, oui, venu et sorti de chez mon Père. Donc Jésus dit, je suis sorti, je suis venu de chez mon Père et je suis venu entrer ou arriver dans le monde. Maintenant, je quitte de nouveau le monde et je m'en vais où je me retourne, je m'en retourne auprès de mon Père. Qu'est-ce qu'on apprend de plus par ces définitions, ce qu'on voit au travers de ce texte? Je pense que ça simplifie le fait de savoir d'où il vient et où il s'en va. OK? Mais le contexte de ce texte, dans Jean chapitre 16, nous parle aussi par la suite que ses disciples lui disent « Voici maintenant, tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. » Donc, les disciples qui étaient avec lui ont reconnu par ses paroles que Jésus venait de prononcer que oui, où ce qui venait, c'était de Dieu et qu'il était vraiment Dieu et qu'il s'en retournait vers son Père comme fils de Dieu. Et ça, ça a été une des paroles que tout le monde peut comprendre. Même ce matin, je pense que c'est pas difficile à comprendre. Il n'y a aucune parabole que Jésus va expliquer ou va faire des parallèles, mais il est clair ici. Verset 30 nous dit « Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne ne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Voyez ici, qu'est-ce qu'ils ont compris? Jésus a répondu « Vous croyez maintenant, voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de vos côtés, de son côté, où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Pourquoi est-ce que Jésus parle de où est-ce qu'il vient, où est-ce qu'il s'en va? Afin qu'il s'attache à cette promesse, aux promesses de Dieu, de qui il est. Et par qui il est, Jésus, nous savons que nous avons la paix en lui ce matin. Nous savons qu'il est là pour nous. Il est là pour toi. Et par cela, il nous dit aussi, que malgré les tribulations, malgré les difficultés, les défis que tu vas avoir traversés dans le monde, de prendre courage, mais de t'appuyer sur où est-ce que Jésus vient et où est-ce qu'il s'en va. Mais pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important de savoir où est-ce que Jésus vient et où est-ce qu'il s'en va? Afin que nous ayons cette assurance qu'il y a le royaume de Dieu qui nous attend après la mort. Que malgré toutes les tribulations qui peuvent arriver, de garder courage, parce que nous savons qu'il est vivant, qu'il est là. Certains, ou contrairement aux prophètes, aux sacrificateurs et à tous les envoyés de Dieu, Jésus est le seul à être issu d'une naissance divine. Et c'est la parole de Dieu qui déclare. Il nous est dit, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, verset 5, « Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré. » Et voyez ici le contexte et la signification d'engendrer. Il nous parle de donner le jour et conçu. Et c'est Dieu qui parle. Il dit, « Tu es mon fils, je t'ai conçu aujourd'hui. » Je t'ai donné la vie aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Tirez des textes de l'Ancien Testament où une promesse a été donnée à David. Dans 2 Samuel 7, 14, pour ceux qui veulent la référence. Bien, c'est une promesse d'une postérité que Dieu donnerait à David comme issu de la grâce qui allait venir, issue de la promesse que Dieu allait accomplir dans ce monde. Jésus est celui qui avait été promis au roi David en rapport à sa descendance, et c'est la promesse que Dieu lui a donnée. c'est que le salut et la délivrance devaient venir dans le monde entier. Nous retrouvons dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 1, premier verset, la généalogie de Jésus-Christ, qui nous parle ici, fils de David et fils d'Abraham. Jésus a une généalogie et avait été promis depuis longtemps. Et on souligne la naissance de Jésus dans quelques semaines. Lui qui avait été promis depuis le tout début de la création. Et donc, cette promesse a perduré d'âge en âge et de génération en génération et jusqu'à aujourd'hui. Les Écritures nous déclarent aussi dans Jean chapitre 3, versets 15 à 17, « Car c'est Dieu, et je l'ai paraphrasé ici, « car c'est Dieu et Père, notre Dieu et Père, a tant aimé le monde qu'il a donné son unique Fils, afin que tous ceux qui placeront leur foi en lui, et qui placent leur foi en lui ce matin, seront sauvés et n'auront jamais, ne mourront jamais. » car ils auront par la foi en lui, en Jésus, la vie éternelle. C'est par lui seul que nous pouvons avoir la vie éternelle ce matin. Et seulement à cause que Dieu nous a aimés et a tant aimé ce monde. Savoir que Jésus est descendu vers nous et pour toi et moi ce matin est la chose la plus incroyable de toute l'histoire de l'humanité. Par cet acte souverain donné par grâce, qui est un don gratuit que nous avons reçu, découle toute la sagesse et la profondeur de l'amour de Dieu pour toute l'humanité. Elle se révèle à nous par cette action, par cette prophétie. Nous pouvons lire une autre promesse, faite cette fois-ci au prophète Ésaïe, en ce qui concerne Jésus. Dans Ésaïe, chapitre 60, versets 1 et 2, il est dit, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève. Sur toi sa gloire apparaît. » Voici la promesse de Jésus. Donné aussi à Ésaïe, il y a plus de 500 ans avant que Jésus vienne. Cette promesse a été accomplie, il a été donnée et a perduré, a été accomplie pour nous. Parce que Dieu voulait se manifester à toi ce matin. Par sa grâce, son amour qui découle, je vais dire le sang de Jésus, la mort du Seigneur. Parce que c'est par sa mort, ses meurtrissures, que nous avons été, que nous sommes encore ce matin guéris. Plus tard, Jésus réitère cette pensée qu'il est venu du Père en disant, dans sa prière, dans Jean chapitre 17, verset 5, Jésus nous disait ici, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 17, verset 5, « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi, auprès de toi-même, de quoi? De la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Wow! Glorifie-toi ou glorifie-moi auprès de toi-même. De la gloire que Jésus avait dans les temps où il était en présence de son Père. Et même, Jésus nous parle que cette gloire était là même lorsque le monde fut créé. Jésus était là, il était présent et il était à côté du Père. Ça serait dur de dire, de rejeter la Trinité après ces paroles. Puisque la Trinité a toujours été, a toujours perduré. Ce n'est pas quelque chose de nouveau qui est apparu dans le Nouveau Testament. Mais Jésus nous dit ici qu'il était avec le Père avant même que le monde fût. La Trinité était là. Elle était vivante. Jésus, bien qu'il soit né d'une femme bénie, nommée Marie, il a été conçu par la vertu, l'origine du Saint-Esprit. C'est ce que ça veut dire. Il est d'origine divine, puisqu'il vient de Dieu et il est Dieu. Il est le Fils de Dieu. Dans Romains, Épître aux Romains, chapitre 8, verset 3, nous pouvons lire, « Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. » Et c'est pour cette raison que Jésus devait mourir à la croix, afin que le péché soit réglé. L'histoire du péché soit effacée par la foi en Jésus. Donc, quelque chose d'impossible à la loi, pourquoi est-ce qu'il nous est parlé d'impossible à la loi? Parce que la loi dure un temps. Et si je veux me justifier devant Dieu dans l'Ancien Testament, bien, je devais le faire et le refaire et le refaire et le refaire. C'était à perpétuité. Il fallait toujours faire des sacrifices. Il fallait toujours revenir devant Dieu pour demander pardon et recommencer. Mais par ce sacrifice, à cause du péché, Dieu a dit, « Moi, j'en ai assez. Moi, je veux régler ça une fois pour toutes. Je vous envoie mon Fils. Il va naître dans une chair semblable à la vôtre. Et ce corps, hein, Paul disait, qui me délivrera ce corps de la chair? » Mais c'est la pensée. Jésus a dû se débarrasser de ce corps qui était semblable au nôtre afin d'avoir la victoire et de remplir toutes les ce que Dieu avait demandé en ce qui concerne le péché. Dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 22-25, il nous a dit, « Bien qu'il n'a point, lui, commis de péché, en parlant de Jésus. Bien que lui n'ait point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de faute, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. » À qui il parle? De son Père. Verset 24, « Lui qui a porté lui-même nos péchés, en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice que Dieu nous a donnée, nous a établie pour nous. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, une fois pour toutes. » Et ici, ça nous parle d'être sauvés, d'être libérés. « Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. » Amen. Amen. Nous avons cette foi ce matin en Jésus parce qu'il a tout accompli. Parce qu'il nous a tellement aimés qu'il s'est donné. Il s'est donné pour nous. Il est allé accomplir la volonté de son Père. On pourrait dire que c'était sa volonté aussi. Pourquoi? Afin que nous soyons justifiés devant lui. Ce n'est pas par nos œuvres que nous sommes justifiés, mais par la grâce, nous dira Éphésiens, Épître aux Éphésiens. Donc, c'est par grâce. On ne méritait pas. C'est un cadeau, c'est un don que nous avons reçu de Dieu. Et ce don, c'est son Fils unique qui l'a donné. Ce n'est pas n'importe qui. Il n'a pas donné quelqu'un d'autre. Il n'a pas nommé quelqu'un d'autre. Il a pris sa propre chair. Il a pris son Fils afin de tout accomplir pour nous. Et on peut voir cette image au travers des cantiques qu'on a chantées ce matin. Combien est-ce qui est précieux ce que Jésus a fait pour nous. comment c'est grand, comment c'est puissant et comment est-ce que ça couvre toute chose. Ça couvre tout. Pierre et les apôtres sont tous des témoins que Jésus n'a jamais péché et que même ses paroles ont resté pures, sans mensonge, ou paroles trompeuses. Ça signifie que nous pouvons faire confiance et nous pouvons avoir cette conviction en lui, placer notre conviction en lui, à chaque parole et à chaque parole que le Seigneur nous a donnée. Parce que tout ce qu'il nous a dit est vrai. Et on peut placer notre confiance dans sa parole. Tout ce que le Seigneur a fait, il l'a fait par amour pour toi ce matin. Voici ce que dit à la croix l'un des malfaiteurs au sujet de Jésus. Pas seulement les disciples, pas seulement les apôtres et tous ceux qui ont cru dans le temps du Seigneur, qui ont eu un témoignage véridique et aussi juste de qui est Jésus, mais aussi celui qui a été cloué à la croix à côté du Seigneur. Dans Luc chapitre 23, versets 40 à 43, il nous a dit ici, « Pour nous, hein, c'est le malfaiteur qui parle ici, qui était cloué à la croix à côté du Seigneur, il dit, « Pour nous, cela est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Celui-ci n'a rien fait de mal. Et dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu seras ou quand tu viendras dans ton règne. » Qu'est-ce que Jésus lui dit? « Il est trop tard pour toi. » Non, c'est pas ça qu'il dit. Hein? Il n'a pas dit « C'est trop tard. » Tu es rendu à la mort. C'est plus le temps de venir de te repentir. Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Et pourquoi? Pourquoi Jésus répond? Pourquoi Jésus répond ça? Parce qu'il a réalisé qui il était, lui, face au Sauveur. Il a réalisé qu'est-ce qu'il avait fait devant la pureté du Seigneur, que lui n'avait rien fait et qu'il se retrouvait au même endroit. Contrairement à l'autre qui se moquait. Hein? Aujourd'hui, on peut être dans cette position-là encore, où ce qu'on témoigne des vérités que Jésus est vivant, Jésus est ressuscité, venez au Seigneur, soyez libérés, et d'avoir d'autres personnes qui sont là à côté, puis qui se moquent de ce qu'on est en train de prêcher puis de dire. Mais à qui Jésus s'est tourné? Vers qui il s'est tourné? Vers celui qui a reconnu qui il était. Ça serait faux de dire à quelqu'un, « Ben, tout le monde sera sauvé. » C'est pas tout le monde qui est sauvé. C'est ceux qui reconnaissent qui est Jésus. Même au dernier moment. J'avais entendu une histoire à un moment donné qui disait que les dernières paroles, souvent, des vivants, bien, vont démontrer qui était cette personne. Et il y avait eu un crash d'avion, puis autant qu'il y en avait qui pouvaient blasphémer, puis crier des choses, en tout cas, qui ne se disent pas, hein, que d'autres pouvaient se retourner en eux-mêmes et se replacer devant le Seigneur, placer leur vie devant le Seigneur pour être sûr, être certain. Même si on a cette assurance de la vie éternelle, même si nous savons ce que nous allons, lorsque les derniers moments viennent, on se tourne vers le Seigneur. Nos pensées s'en vont vers Dieu. Jésus venu est venu, et comme nous avons vu ce matin et comme nous voyons, il est reparti vers le Père. Et la parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 8, verset 34, « Qui nous condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. il est à la droite de Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Il intercède pour nous. C'est pour ça qu'on peut dire ce matin que oui, Jésus est venu et qu'il est reparti, mais qu'il est encore vivant et qu'il intercède pour toi ce matin, pour ta situation dans ta vie, parce qu'il est vivant et il intercède pour chacun de nous. Deux hommes vêtus de blanc apparurent aux apôtres après que Jésus soit parti et remonté vers son Père. Et il leur dit ceci dans Actes chapitre 1, verset 11, et dire, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous et regardez au ciel en regardant au ciel? Hein? Pourquoi vous arrêtez et regardez au ciel ce Jésus qui a été enlevé au milieu de vous? » Au ciel, du milieu de vous, il dit, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Oui, Jésus est venu et il est reparti, mais nous avons aussi cette espérance qu'il va revenir. Parce que la parole de Dieu nous dit, et que ces deux envoyés de Dieu l'ont dit aussi, Jésus est là pour toi ce matin, car tout ce qu'il a promis confirme et complète toutes les prophéties en ce qui le concerne, et qui rend ce témoignage qui est le Christ, le Messie, le seul Sauveur venu spécialement et spécifiquement pour toi. Notre frère partageait tantôt dans Jean, et je lisais juste ce qu'il parlait et ce qu'il partageait, et je revenais sur ce texte, sur un texte qu'il a partagé. Dans Jean, chapitre 16, verset 5, Jésus dit ici, « Mais maintenant je vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, et vous êtes avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, le Consolateur, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Pourquoi j'ai lu toute la partie ici? À cause de ce qu'il dit à la fin. Tout ce que le Père a est à moi, dit Jésus. Jésus est Dieu. Il est le Fils de Dieu, mais il est Dieu. Et tout ce que le Père a est à moi, et c'est pourquoi je dis qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Et il parle de qui? Il parle du Consolateur. Il parle du souffle de Dieu, de l'Esprit de Dieu, qui vient sur nous et qui nous donne les révélations de la personne de Jésus-Christ. Bon, ça s'est déplacé. Donc, ce matin, et je vais terminer avec ces paroles tirées du livre d'Apocalypse, Révélation, que Jean reçut, cette bonne nouvelle hein, que l'apôtre Jean a reçue dans ce livre, et Apocalypse chapitre 5, verset 9 et verset 12. Il nous a dit ici au sujet du Seigneur Jésus, qu'il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Et cela, c'est pas seulement pour le peuple de Dieu, mais cela s'est étendu. Cette grâce et ce don de Dieu, ce sacrifice que Jésus a offert à la croix pour nous, s'est étendu sur tous les peuples, toutes les tribus et toutes les nations, dont nous ce matin. Verset 12, il disait d'une voix forte, « L'agneau, qui est cet agneau? » C'est celui qui a été immolé, celui qui est mort une fois pour toutes à la croix, celui qui a donné sa vie. Hein? Et tantôt, on a parlé de la loi où ce qui s'apprenait un sacrifice. Mais Jésus a été ce sacrifice pour nous qui avons placé notre foi en lui. Il est cet agneau pur, sans tache, qui a été immolé, qui est mort à la croix pour tes péchés. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. On ne se trompe pas lorsqu'on vient au Seigneur. Lorsqu'on vient à Jésus, on ne se trompe pas, on est à la bonne place. Ce n'est pas seulement qu'un prophète, parce que s'il aurait été seulement un prophète ou un envoyé de Dieu, comme beaucoup ont été, nous ne serions pas en train de l'adorer ce matin. Nous ne serions pas en train de lui donner toute la gloire pour ce qu'il accomplit. Nous ne serions pas en train de rechercher la force en lui, la sagesse de Dieu, les richesses de Dieu, par les bontés du Seigneur. Et même tout ce qu'on voit en ce qui concerne cet agneau, Jésus, c'est disponible parce qu'il est celui qui est l'auteur, qui est la source de toute la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, la louange de Dieu, parce qu'il est Dieu. Amen. Que ces paroles puissent nous remplir ce matin. Nous pouvons venir à lui et il est là pour nous. Nous pouvons nous approcher de Dieu et il s'approchera de nous. Parce qu'il est fidèle, juste, et il est la vérité ce matin. Soyez bénis pour cette belle semaine. On va, pour ceux qui nous suivent, pour nous, on va passer à la table du Seigneur. Pour ceux et celles qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, bien, peuvent s'approcher de cette table et participer ensemble à la table du Seigneur.